إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواتي في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بحمد الله سبحانه وتعالى نواصل قراءتنا لشرح كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ محمد ابن سعيد الرسلان حفظه الله جل جلاله وبحمد الله سبحانه وتعالى ما زلنا في بابه حسن الملكة. إذن قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي رضي الله عنه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. Donc on poursuit بإذن الله عز وجل notre étude de l'explication de l'adab al-mufrad de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala avec le sharh du noble Cheikh Raslan hafizahullah ta'ala et nous sommes toujours dans le chapitre concernant la bienfaisance yani envers al-Milka, la bienfaisance envers al-Milka. طيب نعم c'est-à-dire la bienfaisance envers les esclaves. Donc il dit l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dans son hadith numéro 158, il dit Muhammad ibn Sallam nous a rapporté, donc Muhammad ibn Sallam al-Bikandi rahimahullah, et il a dit Muhammad ibn Fudayl nous a rapporté selon Mughira, selon Ummi Moussa, selon Ali, radiyallahu anhu, qui a dit la dernière parole du prophète, alayhi salat wa salam, fut la prière. La prière, craignez Allah dans ce que vous possédez, ou vis-à-vis de ce que vous possédez. Tayyib. فهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ويشهد له حديث أنس عند ابن ماجه وحديث أم سلمة عند ابن ماجه أيضا فهذا الحديث صحيح لغيره فالحديث رجاله ثقات غير أم موسى قال دار قطني حديثها مستقيم يخرج حديثها اعتبارا. Donc ce hadith il a été rapporté également par l'imam Ahmad ainsi qu'Abu Daoud ibn Majah. Et on a une autre chaîne de narration qui est celle de Anas radiyallahu anhu qui vient confirmer ce hadith. On a aussi celle de Ummi Salama chez Ibn Majah qui vient confirmer ce hadith. Donc on dit que ce hadith, il est authentique li ghayrihi. Il est sahihun li ghayrihi. Ça veut dire que il va monter du cran de Hassan jusqu'à celui de Sahih grâce aux autres versions ou aux autres chaînes de narration qui viennent le confirmer. D'accord ? Donc la chaîne de transmission ici rapportée par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala comporte que des rapporteurs fiables excepté Ummu Moussa. excepté Umm Moussa. Yani, dont les hadiths sont pris afin de confirmer d'autres hadiths authentiques. طيب. إذن رجال الإسناد أم موسى وكانت سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc on a parmi les rapporteurs de ce hadith, on a Umm Moussa. Umm Moussa qui faisait partie ou qui était l'esclave de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anha. On a également Mughira. Mughira qui a rapporté ce hadith de Umm Moussa, qui fait partie des rapporteurs fiables de hadith. Sauf que il pouvait faire preuve de tadlis. D'accord ? Il pouvait faire preuve de tadlis, c'est-à-dire qu'il lui arrivait parfois de cacher les défauts ou certains défauts se trouvant dans la chaîne de transmission de ce hadith. Tayyib, al-muhim. معاني الكلمات قوله الصلاة الصلاة النصبها هنا على الإغراء أي إلزموا الصلاة. Donc, parmi les termes de ce hadith, on a as-salat, as-salat. La prière, la prière. Donc ici, grammaticalement, on voit qu'il y a une fetha. As-salata, as-salata. Il y a une raison. La raison ici, qui est une raison grammaticale, qui va donc nous indiquer un sens particulier, est ce qu'on appelle el-ighra, c'est-à-dire le fait d'attirer l'attention de l'auditeur et de l'inciter à une chose qui est louable. La chose qui est louable ici dans la parole as-salat, as-salat, c'est-à-dire la prière. Donc en gros, c'est comme si le prophète alayhi salat wa salam leur disait accrochez-vous à la prière, accrochez-vous à la prière. Fa hadha al-hadith min al-wasaya an-nabawiyya al-amma. Wa al-wasaya min a'mal al-birr al-khassa. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أساليب دعوته الوصايا فمنها ما هو خاص ومنها ما هو عام. Donc dit le Cheikh Raslan Hafidhah Allah Ta'ala que ce hadith fait partie des recommandations prophétiques générales et les recommandations font partie elles-mêmes des actes, des bonnes actions de façon particulière. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, parmi les procédés de sa da'wa, il y a al-wasaya. C'est quoi al-wasaya? Encore une fois, ce sont les recommandations. D'accord? Les recommandations, al-wasaya. Et parmi ces wasaya, parmi ces recommandations, certaines sont spécifiques, d'autres sont générales et globales. Wal-wasaya al-khas, hein, تصبح تشريعا كما في وصيته لمعاذ رضي الله عنه عندما قال له إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الوصية وإن كانت خاصة وجهت لفرد من الأفراد وهو معاذ فهي عامة لأنها تشريع. Donc, il faut savoir que les recommandations spécifiques peuvent devenir une législation. طيب, comme dans la recommandation qu'il a faite à Mu'adh رضي الله عنه, lorsque le prophète il lui a dit, je t'aime, ne laisse à la fin de chaque prière, le fait de dire « Oh Allah, aide-moi dans ton invocation, dans ton remerciement et dans la perfection de ton adoration. » Tayyib, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Donc cette recommandation, même si elle est particulière et spécifique à Mu'adh, et qu'elle a été donnée donc à un individu parmi les individus chez les compagnons radiyallahu anhum qui est Mu'adh, malgré ça elle est âme, on dit qu'elle est générale. Pourquoi? Parce que c'est une législation, c'est une recommandation qui s'est transformée en législation, qui est le fait donc de dire cette invocation là à la fin de chaque prière obligatoire. طيب فكل مصل يوصى بهذه الوصية وشملت هذه الوصية النبوية أن يقول في آخر صلاته هذا الذكر العام الشامل النافع اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طيب donc tout prieur il lui est recommandé cette recommandation. Et donc cette recommandation prophétique, elle concerne tous ceux qui prient ces prières obligatoires. Et qui est donc le fait de dire à la fin de chaque prière obligatoire, ce rappel qui est, ou cette invocation même, qui est générale, qui est globale et qui est bénéfique, qui est « Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik »« Ô Allah, aide-moi dans ton invocation » dans ton remerciement et dans le fait de parfaire ton adoration. فقال الشيخ ثلاثة أعمال من أعمال البر العظيمة فالذكر اسم عام يتناول كل كلم طيب ينطق به اللسان بل يتواطأ عليه القلب واللسان وفي مقدمته قراءة القرآن وما والاه من علوم الشريعة. Donc, dans cette dua, dans cette invocation, on a trois bonnes actions. Trois bonnes actions, énormes, immenses. Premièrement, il dit, aide-moi à, dans ton invocation, ou dans ton évocation. Donc, dhikru, c'est l'évocation. Donc, le nom dhikr, c'est un nom général qui englobe toutes bonnes paroles. Toutes bonnes paroles qui peuvent être prononcées par la langue. Plus que ça, qui sont prononcées par la langue, mais qui coïncident, bien sûr, avec ce qu'il y a dans le cœur. Et la première et la plus importante des bonnes paroles, c'est laquelle? C'est la parole d'Allah. Donc c'est la lecture du Coran, al-Karim. Et toutes les paroles, bien sûr, qui s'en suivent hein, parmi les sciences de la législation islamique. فالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل ذلك ذكر. وقراءة كتب الفقه الإسلامي على اختلاف أنواعها وهكذا كتب التفسير وكتب السير سير الرسل الكرام والأنبياء العظام والصالحين من الأنام كلها ذكر. Donc التسبيح le fait de dire سبحان الله, التحميد le fait de dire الحمد لله, التهليل le fait de dire لا إله إلا الله, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. Eh bien, toutes ces formules font partie du dhikr, du rappel, de l'évocation. Également, la lecture des livres de jurisprudence islamique, taillés, quelle que soit leur forme, font partie également du dhikr, du rappel ou de l'évocation. Également, les livres de tafsir, les livres de biographie, que ce soit la biographie des nobles messagers, ou des prophètes, ou des personnes pieuses parmi les humains, toutes ces lectures, tous ces rappels, toutes ces évocations font partie du terme al-dhikr, le rappel, ou l'évocation. فَيَطْلُبُ الْعَبْدُ الْعَوْنَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى إِقَامَةِ الذِّكْرِ سَوَاءٌ كَانَ وَاجِبًا مَفْرُوضًا أَوْ كَانَ مُسْتَحَبًّا سَوَاءٌ كَانَ مُطْلَقًا أَوْ كَانَ مُقَيَّدًا كُلُّهُ فِيهِ الْأَجْرُ الْكَبِيرُ. والعبد المسلم لضعفه يطلب العون من الله عز وجل على هذا العمل المبرور لأنه إذا لم يكن عون من الله سبحانه للإنسان ما استطاع أن يقدم أو يؤخر. إذن شرع طلب الإعانة من الله على الذكر المفروض والمستحب كما مضى. Donc le serviteur il doit demander l'aide à Allah afin d'accomplir justement ces évocations, ces rappels, que ce soit des rappels obligatoires ou des rappels recommandés. Que ce soit des rappels généraux ou des rappels qui sont liés ou relatifs à une adoration particulière. Donc toutes ces choses-là contiennent une récompense qui est immense. Et donc le serviteur musulman, de par sa faiblesse, il se doit de demander l'aide à Allah tabaraka wa ta'ala pour justement accomplir cet acte-là pur. Car s'il ne profite pas d'une aide venant d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne pourra ni avancer ni reculer, quoi que ce soit. Donc par conséquent, il lui est légiféré de demander l'aide, le soutien d'Allah tabaraka wa ta'ala afin d'accomplir et d'exécuter ses évocations, qu'elles soient obligatoires ou qu'elles soient recommandées, comme nous l'avons vu précédemment. ثم قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم اي احسنوا الى ما ملكت ايمانكم. Donc il dit ici le prophète صلى الله عليه وسلم, et craignez Allah dans ce que vous possédez. طيب. C'est-à-dire soyez bienfaisants, hein? Soyez bienfaisants dans ce que ou vis-à-vis de ce que vous possédez. طيب. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ملك شيئا من الرقاب أو ما يشبهها من بهيمة الأنعام أو من تولى عليه أن يحسن إليه ويرجو ثواب الله تبارك وتعالى في هذا الإحسان وما ملكت أيمانكم من رقيق ومن دواب ومن كان تحت يدك أيها المسلم أنت مسؤول عنه وفي الحديث العام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فهو شامل لذلك كله والإحسان مطلوب في كل شيء والله عز وجل أحب الإحسان وحب فاعله قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى قال جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم ici là donné l'ordre à tous ceux qui possèdent quelque chose, qui sont propriétaires de quelque chose, tels que ceux qui possèdent ou possédaient des esclaves, ou ceux qui peuvent posséder également des troupeaux, des bétails, etc. Ou tout simplement qui ont la responsabilité ou la responsabilité sur des personnes ou des individus. Il se doit d'être bienfaisant envers eux, en espérant la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette bienfaisance. Voyez. Donc tout ce que la personne peut posséder, comme on a dit, des esclaves ou des animaux, des bêtes, du bétail, et tous ceux qui sont sous son autorité et sous sa responsabilité, tu te dois d'être bienfaisant envers eux, parce qu'il dit les chers, « Ya muslim, tu es responsable de eux. » Tu es responsable d'eux. Et tu seras interrogé sur la manière dont tu t'es comporté et la manière par laquelle tu les as traités. Et on a également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est général et qui dit « Vous êtes tous des gardiens et vous serez tous interrogés sur ceux que vous gardez. » Vous voyez ? Donc ce hadith, il est général et il englobe toutes ces choses-là. Donc la bienfaisance, elle est demandée dans toute chose et en toute chose. Et Allah Jalla wa Ala, il aime la bienfaisance et il aime les bienfaisants. Hein, dans le sens rapproché, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, et ceux qui luttent en nous, nous les guiderons hein, vers nos chemins. Et certes, Allah est avec les bienfaisants, les muhsinin. Il dit également dans le sens rapproché, et celui qui s'est soumis entièrement à Allah tabaraka wa ta'ala, tout en étant bienfaisant, eh bien il s'est certes accroché à l'anse la plus solide. Il dit également, et soyez bienfaisants, Allah aime les bienfaisants. Et dans le hadith, il dit le prophète alayhi salatu wassalam, Certes, Allah a rendu obligatoire la bienfaisance sur toute chose. La bienfaisance sur toute chose. فكلمة كل من أدوات العموم فالإحسان في الأعمال الظاهرة والباطنة واجب والإحسان في الأقوال والإحسان في الأفعال. طيب. Donc, lorsque le prophète عليه الصلاة والسلام dit, certes, Allah a rendu obligatoire la bienfaisance sur toute chose, على كل شيء, كل. Ici, le terme كل en arabe, c'est un terme qui est utilisé pour indiquer al-umum, la généralité, la globalité. C'est-à-dire que Allah tabarak wa ta'ala, il a ordonné la bienfaisance sur toute chose, dans les actes apparents comme dans les actes inapparents. Voyez, que ce soit des paroles ou que ce soit de la bienfaisance dans les actes. عبارة النبي صلى الله عليه وسلم أعم من عبارة كل معبر إن الله كتب الإحسان على كل شيء ثم قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وهذا من الإحسان والإحسان إلى ما ملكت اليمين كذلك من الإحسان الذي يثاب فاعله ثوابا عظيما على إحسانه. Donc, on voit ici l'expression, la parole du prophète, alayhi salat wa salam, elle est plus générale que tout ce que pourrait dire une personne à ce sujet. Regardez la généralité de sa parole. Il a dit, certes, Allah a rendu obligatoire la bienfaisance sur toute chose, ala kulli shay, sur toute chose. Puis, qu'est-ce qu'il a dit le prophète, alayhi salat wa salam? Il a dit, donc, lorsque vous exécutez, soyez bienfaisant dans votre exécution. C'est-à-dire lorsque vous devez ôter la vie de quelqu'un, ôtez-la en étant bienfaisant, c'est-à-dire en ne lui causant aucun mal, en ne le faisant pas souffrir, en étant le plus doux possible et le plus rapide possible dans l'exécution. Hein, on parle bien sûr des gouverneurs, des dirigeants, des juges, etc., qui ont l'autorité de faire ça. Puis il dit, et lorsque vous sacrifiez un animal, soyez bienfaisant dans votre sacrifice. C'est-à-dire, ne faites pas mal à l'animal. Ne la sacrifiez pas devant d'autres animaux. Hein? Ne la traînez pas alors qu'elle est en train, elle est encore en vie, etc., etc., etc. Paille. Aiguisez votre couteau pour que l'animal ne ressente aucune douleur. Jayed, donc toutes ces choses-là font partie de quoi? De la bienfaisance. D'accord? Et donc également la bienfaisance envers les esclaves font partie de la bienfaisance ou fait partie de la bienfaisance pour laquelle la personne recevra une récompense énorme. وقد قال المولى الكريم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فمن أحسن في العمل أحسن الله له الجزاء ومن أساء في العمل جوزي من جنس عمله ولا يظلم ربك أحدا. Il dit Allah Jalla wa Ala dans la sourate Ar-Rahman, dans le sens rapproché, n'y a-t-il pas que la bienfaisance en guise de récompense à la bienfaisance? Donc celui qui est bienfaisant dans ses actes, Allah Jalla wa Ala sera bienfaisant envers lui au niveau de la récompense. Et au contraire, celui qui a été malfaisant dans son acte, il sera rétribué en fonction de sa malfaisance et de son acte. Et Allah Jalla wa Ala, il dit, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Surat Al-Kahf. Tayyib. فما يؤخذ من هذا الحديث أولا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها دعوة وتعليما وجهادا ووصايا أو وصايا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر إلى غير ذلك مما جاء به عن الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. On tire de ce hadith l'indication que le prophète alayhi salatu wassalam a consacré sa vie entière à la da'wa, à l'enseignement, à la lutte, à la recommandation, à l'ordonnance ou à la prescription du bien et à la proscription du mal, et autre que cela parmi ce qu'Allah tabarak wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wassalam, que ce soit dans le livre ou la sunna. ومن جملة ذلك الوصايا إما الوصايا العامة للأمة كلها وإما الوصايا للأفراد حتى الوصايا للأفراد في التشريع هي عامة فهذه الوصية من الوصايا العامة لجميع المسلمين بالمحافظة على الصلاة أي على طهارتها أولا. Donc parmi donc les bonnes actions, les enseignements ou les recommandations du prophète alayhi salatu wassalam, on a les recommandations qui sont générales, c'est-à-dire qui concernent toute la communauté dans sa globalité. Taïeb, on a aussi des recommandations qui ont été faites pour des individus, mais même les recommandations que le prophète il a faites à des individus dans la législation, en vérité, elles sont générales, elles aussi. Comme on l'a vu, celle qu'il a faite à Mu'adh, lorsqu'il lui a dit de dire, après chaque prière obligatoire, la dua que l'on a vue tout à l'heure. Est-ce que cette dua, ou est-ce que cette recommandation, elle ne concerne que Mu'adh? Non, elle concerne tous ceux qui prient une prière obligatoire. Donc elle est générale. D'accord? Donc, ces recommandations générales, dans la législation, eh bien, sont aussi des recommandations donc globales, comme on a dit, et qui concernent tous les musulmans. Tous les musulmans. Donc ici, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « As-salat, as-salat, accrochez-vous à la prière, accrochez-vous à la prière », c'est une recommandation qui concerne toute la communauté, tous les musulmans, sans exception. Taïeb. Donc, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé le fait de s'attacher à la prière. La première des choses qui concerne la prière, c'est quoi? C'est la purification. La première des choses, c'est la purification. Voyez, قال الشيخ الطهارة نوعان طهارة معنوية وطهارة حسية. Il dit le cheikh, il y a deux formes de purification. Pour commencer, il y a deux types, deux formes de purification. Il y a une purification au sens figuré. Maintenant, il y a une purification immatérielle. Et on a aussi une purification qui est matérielle, au sens propre du terme. فالطهارة المعنوية من الشرك الذي لا يقبل معه عمل لا صلاة ولا غيرها. Donc la purification immatérielle. La purification au sens figuré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fait de se purifier tout d'abord du shirk, du polythéisme. C'est la première des choses. Car celui qui prierait, mais qui n'a pas purifié ses actes ou sa croyance du shirk, sa prière est inutile, car elle n'est pas valide. Car la prière n'est acceptée que d'un musulman, et pas d'un polythéiste. Donc on doit, au préalable, se purifier, au sens figuré, du shirk, de l'associationnisme, à cause duquel aucun acte n'est valide, ni prière, ni rien. أما الطهارة الحسية فهي رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث الأكبر والأصغر. ولا يقبل الله صلاة مصلي أو مصل من ذكر أو أنثى إلا إذا كان طاهرا من الأحداث والأنجاز. فالحدث الأكبر يرفع بالاغتسال والحدث الأصغر يرفع بالوضوء. وكيفياتها مفصلة في السنة المطهرة وفي الفقه الإسلامي وفي الفقه الإسلامي أي كيف يغتسل من الجنابة وكيف تغتسل المرأة كذلك كيف تغتسل من الحيض والنفاس والجنابة وكيف يغتسل الرجل الغسل الواجب أو المستحب والوضوء كذلك من أهم الأعمال، ولا يمكن أن يحسنه شخص إلا أن يتعلم على يد معلم. ولأهميته كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه بالفعل والقول، يتوضأ أمامهم معلما لهم ويعلمهم بقوله، وما ذلك إلا لأهمية الطهارة لأنها مفتاح الصلاة. طيب، donc la purification cette fois matérielle. La purification au sens propre du terme, c'est quoi? C'est le fait de doter l'état, ce qu'on appelle l'état de hadath, l'état d'impureté immatérielle, et d'enlever l'impureté matérielle. Donc la purification au sens propre du terme, c'est deux choses. C'est ôter la souillure immatérielle et la souillure matérielle. Donc c'est quoi la souillure immatérielle? C'est le fait d'aller, par exemple, faire ses besoins, ou le fait d'avoir un gaz. Eh bien, cela te fait rentrer dans un état de souillure ou d'impureté immatérielle. On a vraiment dit « hadath ». Et bien sûr, c'est aussi la purification, le fait d'enlever toute souillure matérielle. Donc si tu as sur toi une souillure matérielle, tu es obligé de l'enlever avant de prier, bien sûr. D'accord? Donc, on a ce qu'on appelle aussi l'état de souillure immatérielle, majeure et mineure. D'accord? Donc, avec lequel Allah tabarak wa ta'ala n'accepte pas la prière de la personne si elle est dans cet état-là. Que la personne soit une fille ou un garçon, il n'accepte la prière de l'individu que s'il est en état de purification. Que s'il est, il n'est pas dans un état d'impureté immatérielle, hadath, et qu'il n'est pas sur lui ou l'endroit où il prie d'impureté matérielle. D'accord? Donc, al-hadath al-akbar, l'état d'impureté immatérielle majeure, il va s'enlever en faisant quoi? Comment on enlève l'état d'impureté majeure? Eh bien, on fait ce qu'on appelle al-irtisal, le lavage rituel. Al-irtisal. Tandis que l'état d'impureté mineure, elle va s'enlever comment? En faisant al-boudou, faisant les ablutions. D'accord? Ou l'ablution. Donc l'ablution, c'est ça qui va te permettre d'enlever ton état d'impureté mineure. Taïeb. Et la manière de faire le lavage, la manière de faire les ablutions, etc., sont expliquées, alhamdoulilah, dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, également dans les livres de jurisprudence islamique. C'est-à-dire comment on va se nettoyer ou comment on va enlever notre état de al-janaba, d'impureté majeure. Ou comment la femme, elle va se laver. Comment elle va se purifier de ses menstrues ou de ses louchis. Ou également de l'état d'al-janaba, d'impureté majeure, etc. Comment l'homme, il va se faire ce lavage rituel obligatoire ou le lavage rituel qui est recommandé pour le Jumu'ah, par exemple, qui est recommandé. Donc, l'ablution également fait partie des actes les plus importants. Et il est impossible que la personne puisse parfaire ou faire son ablution correctement qu'en apprenant. C'est pas possible. Quelqu'un qui n'a pas appris à faire l'ablution, il ne peut pas faire cette ablution de la manière légiférée. Il est obligé de l'avoir appris au préalable. Et comment on l'apprend? On l'apprend avec quelqu'un, un enseignant. On l'apprend avec un enseignant. Ça y est? Et donc, en vertu de son importance, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il enseignait lui-même à ses compagnons comment faire l'ablution. En leur expliquant verbalement comment les faire, mais aussi en le faisant devant eux. Il faisait al-wudu devant ses compagnons pour leur montrer, pour leur enseigner. Comme un enseignant le ferait devant ses élèves. Et bien sûr, il leur a enseigné aussi à travers la parole. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cela est dû à l'importance capitale de la purification. Et parce que la purification est la clé de la prière. C'est la clé par laquelle tu vas entrer en prière. Voyez ? On a dit donc deux types de purification. Une purification immatérielle qui est le fait de se purifier du shirk et une purification matérielle qui est le fait d'enlever l'état de hadath, d'impureté, et l'état aussi, et également les souillures matérielles qu'on aurait ou qu'on peut avoir sur soi. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ليرفع الحدث. Donc il a dit le prophète عليه الصلاة والسلام, Allah جل وعلا n'accepte pas la prière de chacun d'entre vous lorsqu'il a eu un hadith, lorsqu'il a eu un hadith, une chose qui a fait qu'il soit en état d'impureté immatérielle, jusqu'à ce qu'il fasse son ablution. D'accord ? Donc celui qui fait ses besoins ou qui a eu un gaz ou qui a dormi profondément et qui prie sans avoir fait son ablution, sa prière n'est pas valide. Il est obligé d'enlever son état de hadath. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة التي يعتبر فقه الطهارة من إقامتها بل هو أساسها ثم أداؤها في أوقاتها المعلومة على كيفيتها المعروفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بسنته بقوله وفعله وقال للأمة صلوا كما رأيتموني أصلي. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a recommandé pas de faire la prière, mais d'accomplir la prière. Iqamatu salat. Iqamatu salat, c'est autre chose que faire le salat. Iqamatu salat, ça comprend la purification. Ce terme-là, il inclut le fait de savoir faire de savoir se purifier. Voyez ? Donc savoir se purifier, ça fait partie de l'accomplissement de la prière. Et c'est même le fondement même de la prière, en vérité, la purification. Et ensuite, on a bien sûr le fait de faire sa prière à l'heure, aux heures connues, et de faire sa prière de la façon légiférée, voyez ? Dans laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné à travers sa sunna, à travers ses actes et ses paroles. C'est pour ça qu'il a dit à sa communauté, « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. « Wa lamma kanat umma al-ibadat » وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ولهذا قال علي رضي الله عنه كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة أكد الوصية اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم أي ما كان مالكا له سواء من الرقيق أو من الدواب أو ما كان تحت تصرفه فعليه أن يحسن إليه هذه من Donc, à partir du moment où la prière est la mère des adorations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé en sa faveur à la fin de sa vie, lorsqu'il était donc dans sa maladie dans laquelle il est mort. Qu'est-ce qu'il dit à Ali radiallahu anhu? Il dit la dernière parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam était as-salat, as-salat. La prière, C'est-à-dire, accrochez-vous à la prière, accrochez-vous à la prière. Puis, le prophète, il a accentué sa recommandation, il a dit, craignez Allah vis-à-vis de ce que vous possédez. C'est-à-dire vis-à-vis, na'am, des choses dont vous avez la possession, que ce soit des esclaves, des bêtes, des animaux ou autres, ou des gens qui sont sous votre responsabilité. On se doit d'être bienfaisant envers eux. Et donc, ceci fait partie de la généralité des recommandations générales qu'a pu faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فمن الوصايا الخاصة أو نكتفي بهذا إن شاء الله. On va s'arrêter là, inshallah, ta'ala, pour aujourd'hui. On finira l'explication de ce hadith la semaine prochaine, inshallah, ta'ala. والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.